VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Mali, l'opposition rejette le plan de sortie de crise de la CDAO et exige la démission du président Ibeka. Au Niger, la journaliste Samira Sabou a été libérée. En Mauritanie, les députés ont voté la mise en place d'une haute cour de justice. L'OMS s'inquiète de l'accélération de la pandémie du coronavirus en Afrique. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Mali, la coalition à la tête de la contestation a rejeté aujourd'hui le plan de sortie de crise ouest-africain et exige plus que jamais la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Plus de détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
Hier, les 15 présidents de la CDAO, réunis en sommet extraordinaire par visioconférence, ont lancé un appel solennel à l'Union sacrée des Maliens et fait des recommandations pour un retour à la normale. Dès la fin de ce sommet, un cabinet restreint a été mis en place pour négocier avec les différentes parties. Ce matin, à la primature, le Premier ministre a tenu le premier conseil de cabinet avec les 6 membres du cabinet restreint. Boubou Cissé, Premier ministre du Mali.
Nous avons conscient que la valeur ajoutée de cet exécutif restreint qui a été mis en place est de pouvoir négocier dans les meilleurs délais la sortie de crise. Crise dans laquelle nous sommes. Non seulement de régler cette situation de crise-là dans les meilleurs délais, mais surtout vers le retour à ce que nous considérons tous ensemble ici comme étant la normalité pour notre pays.
De son côté, le rassemblement des forces patriotiques M5-RFP, dans un communiqué, dit avoir pris avec étonnement les conclusions du sommet extraordinaire de la CDAO, lesquelles continuent selon et à ramener la crise sociopolitique au Mali à un simple contentieux électoral du deuxième tour des législatives. On constate avec regret les recommandations de la CDAO qui ne correspondent aucunement aux attentes et aspirations du peuple malien, déclare Choguel Koukala Maïga, porte-parole du M5-RFP. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours au Mali, 22 personnes ont été tuées et 21 blessées, dont 7 gravement, dans une collision entre un minibus et un poids lourd dans le sud du pays. L'accident s'est produit ce matin sur la route nationale 26 qui relie Bamako à la Guinée. En Côte d'Ivoire, le RHDP, le parti au pouvoir, va tenir demain à Abidjan une réunion cruciale pour choisir son nouveau candidat pour la présidentielle d'octobre, après la mort subite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous reviendrons sur les différentes candidatures pour la présidentielle ivoirienne en seconde partie de cette édition. En Guinée, la situation est de nouveau tendue à Kakan, alors que les 22 manifestants arrêtés alors qu'ils protestaient contre les coupures d'électricité ont été écroués et inculpés pour troubles à l'ordre public. Plusieurs centaines de personnes avaient manifesté mardi dans ce fief du président Alpha Condé dans l'Est, ce qui avait donné lieu à de violents heurts avec les forces de l'ordre. Adoption en Mauritanie d'une loi instituant une haute cour de justice chargée de juger le chef de l'État et des ministres en cas de haute trahison. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
La loi adoptée par l'Assemblée nationale doit encore être validée par le Conseil constitutionnel, puis promulguée par le chef de l'État. La haute cour de justice doit être mise en place lors de la prochaine session de l'Assemblée nationale en octobre. La nouvelle juridiction comprendra 9 juges, des députés qui seront assistés de 3 magistrats du siège et du parquet de la Cour suprême. Le chef de l'État doit, avant d'être traduit devant cette cour spéciale, être mis en accusation par l'Assemblée nationale. La création de cette juridiction n'est dirigée contre personne, a affirmé une source parlementaire. Il faisait allusion à des accusations faisant état de règlement de compte des autorités mauritaniennes avec l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. Il avait ignoré à la mi-juillet la convocation d'une commission parlementaire pour s'exprimer sur la gestion de certains dossiers comme les revenus pétroliers, la vente de domaines de l'État à Nouakchott ou encore la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement en denrées alimentaires.
Au Niger, un juge a libéré ce matin la jeune journaliste et blogueuse Samira Sabou pour infraction non constituée. Elle a été arrêtée en mai sur plainte du fils du président Issoufou Mahamadou. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Elle aura donc passé près de 2 mois en prison pour rien. Samira Sabou a bénéficié ce mardi d'un non-lieu pour infraction non constituée suite à la plainte pour diffamation déposée contre elle par le fils du président de la République, Maman Sani Issoufou Mahamadou, Maître Boudal Efred Mouloul, avocat de la jeune blogueuse.
On a dit qu'il n'y avait pas d'infraction et que nous étions sereins. Voilà la preuve que nous sommes sereins. Et parce qu'elle est restée professionnelle dans son poste, elle n'a cité aucun nom qu'elle a été relaxée pour infraction non constituée. Cela veut dire qu'elle a été innocentée. Elle ne devrait pas garder même une seconde en prison. Pourtant, elle est dans son deuxième mois de détention préventive.
Le fils du président de la République a la possibilité de s'opposer à cette décision en interjetant appel. Même dans ce cas, la jeune journaliste sort de prison aujourd'hui selon son avocat. En rappel, Samira Sabou a, en début du mois de mai dernier, écrit sur sa page Facebook que certains marchés du ministère de la Défense nationale, jugés irréguliers, bénéficiaient au fils du patron. Le fils du président de la République a alors déduit qu'il s'agissait de lui et a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, un groupe de militaires est tombé dans une embuscade tendue par de présumés rebelles ADF dans le parc des Virunga. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, 7 militaires ont été tués. Le porte-parole de l'armée dans la région a confirmé l'incident, mais n'a pas voulu donner de bilan. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé à l'unanimité de prolonger d'un an l'embargo sur les armes en Centrafrique. Ce vote intervient quelques jours après l'annonce de la candidature au scrutin présidentiel de décembre 2020 de l'ex-président centrafricain François Bozizé. Les États-Unis ont annoncé mardi avoir convoqué l'ambassadeur du Zimbabwe pour protester contre des propos offensants contre l'émissaire américain accusé d'avoir fomenté des troubles. Le porte-parole de la ZANU-PF a traité lundi l'ambassadeur américain Brian Nichols de « voyou », le menaçant d'expulsion. Les propos de la ZANU-PF, bien qu'ils soient tristement sans surprise, sont profondément offensants, a réagi Tibor Nage, le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de Covid-19, qui a dans un premier temps progressé moins vite en Afrique que dans d'autres régions du monde, s'accélère désormais sur le continent. C'est une source de préoccupation pour l'OMS. Nanit Talani.
À ce jour, l'Afrique a enregistré quelque 860 000 cas avec au moins 18 000 décès. Ces chiffres sont encore faibles comparés à l'Europe ou les États-Unis, mais l'OMS s'est dit préoccupée par l'accélération de la pandémie sur le continent où les systèmes de santé publique sont défaillants. L'organisation a aussi prévenu que le pic est à venir alors que beaucoup de pays assouplissent les restrictions pour éviter l'effondrement de leurs économies. L'Afrique du Sud est le pays du continent le plus touché avec plus de 450 000 cas dont 7067 décès. Le Nigeria est le deuxième pays le plus touché en Afrique. Le Cameroun, qui n'a pas imposé de confinement strict, est le pays d'Afrique centrale qui enregistre le plus de cas, soit 16 000. Au Kenya, le nombre de cas a triplé en un mois, avec près de 18 000 contaminations confirmées, dont 285 décès. Le président Uhuru Kenyatta a annoncé l'interdiction de la vente d'alcool dans les restaurants et la prolongation d'un mois du couvre-feu nocturne. Les écoles primaires et secondaires ne rouvriront qu'en janvier 2021. À Madagascar, le président malgache André Rajoel vante les vertus d'une tisane contre le Covid-19. Elle a été largement distribuée gratuitement dans le pays, mais le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter.
Aux États-Unis, la situation est toujours inquiétante en Californie, en Floride et au Texas. En Europe, l'Allemagne s'inquiète avec plus de 500 nouvelles infections par jour, tout comme la Belgique, qui a durci ses mesures pour éviter un reconfinement généralisé. En Chine, où l'épidémie avait été largement endiguée 7 mois après l'apparition du virus, les autorités ont annoncé que des porteurs du coronavirus venus d'un foyer d'infection dans le nord-est du pays ont diffusé le Covid-19 dans 5 provinces, dont la capitale, Pékin. En Afghanistan, les talibans ont décrété un cessez-le-feu de 3 jours que le gouvernement a ordonné aux forces de sécurité de respecter à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha vendredi. L'annonce de cette deuxième trêve est intervenue après que le président Ashraf Ghani a annoncé l'ouverture de négociations de paix directes avec les insurgés dans une semaine. Enfin, l'avocate française et ancienne députée Gisèle Halimi est décédée à 93 ans. Née en Tunisie, elle fut une militante pour l'émancipation des femmes. En 1971, elle avait fondé avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir l'association Choisir la cause des femmes pour le droit à l'avortement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. De l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec John Linden.
Le rappeur des experts indépendants Blanchi Akinyumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, des 16 allégations des lanceurs d'alerte. L'équipe rappelle que l'absence de preuves n'est pas une preuve de l'absence, appelant en outre à faire la distinction entre une défaillance institutionnelle alléguée à la BAD et la conduite de son président. Ce sont les conclusions des 3 experts, dont l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, en compagnie du juge Asangelo de Gambie et du Sud-Africain Leonard McCarthy. Le Fonds monétaire international a déclaré lundi que son conseil exécutif avait approuvé un financement d'urgence de 4,3 milliards de dollars pour l'Afrique du Sud afin d'aider le pays à faire face aux graves conséquences économiques et aux défis sanitaires de la pandémie de coronavirus. Le plus grand opérateur de télécommunications du Kenya, Safaricom, a lancé un programme en partenariat avec Google qui permet à ses clients de payer des téléphones 4G en plusieurs tranches. Il s'agit d'un programme qui va proposer 1 million de téléphones intelligents abordables, les clients ne payant que 20 shillings par jour sur une période de 9 mois. Safaricom entend mettre environ 4 millions de téléphones 4G sur le marché.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le championnat du Maroc du football est devenu le premier grand championnat africain à reprendre après 4 mois d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus. Peu de buts pour la reprise. Les triples champions d'Afrique du Raja Casablanca ont fait match nul 0-0 sur le terrain du Difa El Jadidi et le Hassania Agadir a battu 1-0 le Raja. Le champion en titre, le Wydad Casablanca, reste en tête du championnat. Les prochains grands championnats qui doivent reprendre au Maghreb sont ceux de Tunisie le 2 août et d'Égypte le 6 août. L'Algérie n'a pas encore décidé de date de reprise, ni même si la compétition allait reprendre. Au sud du continent, le championnat sud-africain a annoncé que la compétition reprendra le 11 août pour se conclure le 5 septembre. Les 54 matchs restants du championnat seront joués à huis clos dans la province du Gauteng, dont les principales villes sont Johannesburg et Pretoria. Le Gauteng est pourtant l'épicentre de la pandémie en Afrique du Sud, mais la Fédération de football affirme que les protocoles sanitaires garantissent qu'il n'y aura que 1% de chances que quelqu'un soit infecté. Seul le Burundi a laissé son championnat se poursuivre malgré la pandémie de coronavirus. Le championnat du Tanzanie a quant à lui été le premier à reprendre mi-juin. Et puis, le champion d'Afrique des moins de 17 ans, le Camerounais Steve Mvoué, s'est engagé avec le Toulouse FC, signant son premier contrat professionnel. Le jeune de 18 ans a beaucoup brillé lors de la CAN de sa catégorie Tanzanie 2019, remportant le trophée avec son pays, mais aussi en finissant meilleur joueur du tournoi. En juillet 2019, Steve Mvoué a disputé ses premières minutes avec la sélection A des Lions Indomptables face à la Zambie. Il a ensuite pris part au Mondial des moins de 17 ans au Brésil. Formé à l'Azur Star de Yaoundé, la pépite camerounaise est le fils de Régine Mvoué, première capitaine de l'équipe nationale féminine du Cameroun. Toujours en ce qui concerne les transferts, la nouvelle équipe dirigeante de Toulouse maintient le bon de sortie accordé par la précédente direction à l'international ivoirien Max-Alain Gradel. Après la descente du club en Ligue 2, Max-Alain Gradel a un accord avec le club pour partir. « Je respecterai l'engagement et la parole du club », a déclaré Damien Komoli, nouveau président de Toulouse FC. Pour ce qui est de l'autre ivoirien du TFC, Ibrahim Sangaré, je cite, il y a beaucoup de rumeurs, mais pas encore d'offres, mais elles vont venir, on avisera, à laisser entendre Damien Komouli.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Mali, l'opposition rejette les recommandations des chefs d'État de la CEDEAO. Ce mardi, lors d'une conférence de presse, elle a exigé plus que jamais la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Lundi, les 15 présidents de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, réunis en sommet virtuel, ont lancé un appel solennel à l'Union sacrée des Maliens et fait des recommandations pour un retour à la normale, brandissant la menace de sanctions si leurs recommandations n'étaient pas appliquées d'ici vendredi. Pour une analyse, Bagasikoura a joint Étienne Faskaba Sissoko, enseignant-chercheur à l'université de Bamako.
Les différentes propositions qui ont été émises, de mon point de vue, même s'ils ne recueillent pas jusqu'à présent l'assentiment du M5-RFP, sont de nature à régler définitivement la question. D'abord, pour la Cour constitutionnelle, il s'agissait de dire clairement qu'il fallait remembrer cette cour-là. Remembrer cette cour soit avec les dispositions constitutionnelles, avec les autorités de nomination habituelles, ou en tout cas faire recours à l'article 50 de la Constitution pour que le président de la République à lui seul nomme l'ensemble des membres de la Cour en cas de blocage. Donc aujourd'hui, il est nécessaire d'accélérer ce processus-là pour que, éventuellement, que cette nouvelle cour reconstituée revoie les résultats de proclamés par l'ancienne cour constitutionnelle pour voir s'il est possible, effectivement, du point de vue du droit, de remettre dans leur droit les 31 députés qui ont été pollués, à défaut d'obtenir la démission de ces derniers.
Et qu'est-ce que vous dites de cette sortie du M5-RFP qui rejette en bloc toutes ces propositions-là?
Avec la posture du shérif de Nioro, dont les principales recommandations sur le choix des membres du gouvernement a été prise en compte, avec le ministre de l'Économie et des Finances, avec le ministre des Affaires étrangères, qui sont ses choix, le ministre de la Défense également, qui sont les choix du shérif de Nioro, pourraient entrevoir une sorte de compromis avec le shérif de Nioro. Et on sait que dans la pratique aussi, qu'il y a une consultation régulière entre le shérif de Nioro et l'imam Diko. Donc, il est fort probable que les positions bougent de ce côté-là et que finalement, la CEMAP, en tout cas dans sa composante favorable à l'imam Diko, puisse effectivement se rallier à ce gouvernement pour sortir définitivement de la crise. Mais quand cela ne tienne, si les différentes propositions qui vont sortir dans les prochains jours dans le cadre de la feuille de route n'arrivent toujours pas à convaincre, il est fort probable que l'on craigne dans les prochains jours une dégradation de la situation.
Quel effet peut avoir cette menace de sanctions brandie par la CEDEAO?
Je crois qu'il y a deux alternatives, deux scénarios possibles dans le contexte actuel. Le premier scénario que l'on voit se dessiner de plus en plus, c'est effectivement que ça contribue à crisper davantage la situation et à faire monter la pression davantage. Et malheureusement, c'est ce scénario qui est en train de se dessiner.
C'était Étienne Faskaba Sissoko, enseignant-chercheur à l'université de Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédier, 86 ans, a été investi par son parti, le PDCI-RDA, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Au sein du parti au pouvoir, le RHDP, des voix s'élèvent pour demander au président Alassane Ouattara de se représenter après la mort de leur candidat, Amadou Gon Coulibaly. Le FPI reste divisé avec deux branches. Au micro de Yacouba Ouédraogo, Alexis Tano, directeur du journal Le Jour Plus à Abidjan.
Henri Konan Bédié, en partant à cette convention, était parti pour être plébiscité, surtout que le seul candidat qui devait être son talendeur, l'ancien député de Port-Boué, ancien président de la jeunesse, avait été éliminé.
Rappelons que l'ancien député de Port-Boué, c'est celui communément appelé Kakabé Kwasi Konan Bertin. Alors, parlant toujours du PDCI, on a entendu Jean-Louis Billon évoquer l'hypothèse d'un report d'élection présidentielle serait pour. Ensuite, il est le chargé de communication du PDCI RDA. Le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Dikawe, a dit que cela n'engageait que Jean-Louis Billon et que ce n'est pas le point de vue du PDCI. On sent un peu de cacophonie au sein du parti.
La voix officielle du PDCI, c'est le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou Dikawe. Mais cela dit, le report dont on parle en ce qui concerne les élections sont un peu sur toutes les lèvres aujourd'hui. Quand on regarde le délai qui reste à atteindre le cap du 31 octobre, quand on regarde aussi le processus électoral, la tâche qui reste à accomplir pour arriver à un processus transparent, libre et ouvert à tous, surtout avec, en prenant en compte la dernière décision qui est sortie de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on se dit finalement, est-ce que ces élections vont se tenir, surtout qu'au niveau du parti au pouvoir, leur candidat qui avait été désigné est décédé.
Au sein du RHDP, le parti au pouvoir, il y a des voix qui s'élèvent pour demander au président Alassane Ouattara de rebeloter pour un troisième mandat après la mort de l'ancien premier ministre candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. Faut-il s'attendre à ce que Ouattara accède à leur demande?
Ce ne sera pas non plus une surprise de voir le président de la République candidat à un troisième mandat ou à sa propre succession. Vous voyez partout les réclamés. Il est évident qu'un troisième mandat du président de la République ne manque pas de choquer certains de l'opposition et même d'autres voix. Des juristes se sont prononcés là-dessus en disant qu'il n'y est pas possible, juridiquement possible, d'aller aux élections pour un troisième mandat. Dans son camp, il s'est dit qu'avec la nouvelle constitution qui avait été adoptée en 2016, ça remettait les compteurs à zéro. Mais ce qui est sûr, il y a à parier que les mêmes poids lourds qu'on a rencontrés en 2010 se retrouvent encore en 2020 pour la bataille présidentielle.
Alexis Tano, journaliste et analyste politique à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Jill Biden a pris un congé de son poste d'enseignante pour apporter son aide à la campagne de son époux Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de novembre. Madame Biden connaît très bien les rouages de Washington puisque son mari a passé 36 ans au Sénat américain et 8 ans en tant que vice-président sous Barack Obama. Caroline Pressouti de la VOA nous propose ce portrait de Jill Biden avec le récit de Jacques Aristide.
Jill Biden tient ces jours-ci des rassemblements virtuels pour soutenir son époux. Celui-ci s'adresse à un groupe de femmes de la communauté hispanique du pays. La veille, elle se trouvait dans une école communautaire. Un lieu qui lui tient à cœur.
Je suis Jill Biden et j'ai l'honneur d'être enseignante dans un collège communautaire.
Jill Biden est devenue la toute première deuxième dame des États-Unis à occuper un emploi rémunéré hors de la Maison Blanche, alors que son mari était vice-président.
Beaucoup de mes étudiants ne savent pas que j'ai deux emplois.
Au cours d'une cérémonie universitaire, elle avait raconté l'histoire d'un élève qui a couru dans sa classe en disant
« Dr. B, je vous ai vu hier soir à la télévision avec Michelle Obama et j'ai appelé ma mère et j'ai dit « Maman, maman, c'est ma professeure d'anglais » et ma mère m'a dit « C'est pas ton professeur, c'est la deuxième dame »
Si Joe Biden est élu, Jill Biden serait la première épouse d'un président à avoir obtenu un doctorat. Betty Boyd, Caroline, a écrit le livre First Ladies, les premières dames.
Je m'attendrais à ce qu'elle soit très active en suggérant des réformes spécifiques du système éducatif, mais tout le monde n'est pas d'accord. Vous savez, beaucoup de gens aimeraient une première dame qui ne dit rien et qui ne porte que les plus belles tenues. Je ne fais pas partie de cette catégorie de gens. Je pense vraiment clairement que c'est une plateforme puissante.
Sa vie avec Joe Biden a débuté non sans complications. Elle passait par un divorce à l'époque et lui faisait son deuil, élevant seul deux jeunes garçons après la mort de sa femme et de son bébé dans un accident de voiture. Jill et Joe se sont mariés après que Joe Biden lui a demandé en mariage 5 fois. Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle de novembre.
Et la cinquième fois, je lui ai finalement dit, Jill, ma fierté irlandaise s'est emparée de moi. C'est la dernière fois que je vais te demander un mariage. J'ai dit, tu n'as pas à me dire quand tu m'épouseras, juste si tu m'épouseras. Et elle a dit oui.
Et 4 ans plus tard, Jill a donné naissance à une fille, mais la tragédie frappera à nouveau en 2015, lorsque le fils de Joe Biden, Beau, meurt d'un cancer du cerveau.
C'est personnel pour moi et mon mari Joe.
Après cette disparition, Jill Biden a fait de la lutte contre le cancer l'un de ses combats. En juin de cette année, elle a écrit un livre pour enfants sur le jeune Joe Biden et sa résilience face à son bégaiement, alors que certains se moquaient de lui. En mars dernier, lors d'un rassemblement de campagne, Jill Biden a montré comment elle était protectrice de son époux. Sans hésiter, elle a repoussé une militante qui se précipitait vers Joe Biden. Pas une, mais 2 fois. Bien que le couple Biden considère le petit état du Delaware comme son lieu de résidence, Jill Biden a accompagné Joe tout au long de ses 21 dernières années en tant que sénateur démocrate à Capitol Hill et de ses 8 ans à la Maison Blanche, où elle aimerait revenir pour au moins 4 autres années.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La Chine représente la plus grande menace à long terme pour la vitalité économique et la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré Christopher Wray, directeur du FBI, lors d'un discours à l'Institut Hudson. Le Parti communiste chinois, a-t-il dit, est engagé dans un processus à plusieurs niveaux pour devenir le leader économique et technologique mondial. Mais il ne mène pas ce combat par une innovation légitime, ni par une concurrence loyale et légale, ni en donnant à ses citoyens la liberté de penser, de parole et de créativité que nous chérissons ici aux États-Unis. Au lieu de cela, la Chine est engagée dans un effort de l'ensemble de l'État pour devenir la seule superpuissance du monde par tous les moyens nécessaires. Ces moyens, a-t-il noté, comprennent l'espionnage économique, le piratage des données, le vol des propriétés intellectuelles, la corruption, le chantage et d'autres tentatives coercitives pour influencer les politiques de notre gouvernement, fausser le discours public de notre pays et miner la confiance dans nos processus et valeurs démocratiques. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a souligné que ces actions malveillantes et pernicieuses sont l'œuvre du Parti communiste chinois. Il ne s'agit pas du peuple chinois et certainement pas des Américains d'origine chinoise. Pendant des générations, les gens ont voyagé de la Chine aux États-Unis pour obtenir les bienfaits de la liberté pour eux-mêmes et pour leurs familles. Et notre société est meilleure grâce à leur contribution. Pendant tout ce temps, le gouvernement chinois et le Parti communiste chinois ont violé effrontément des normes bien établies et l'état de droit. Le directeur Wray a évoqué un soi-disant programme anti-corruption établi par le secrétaire général Xi Jinping appelé Fox Hunt. Fox Hunt, a déclaré M. Wray, est en réalité une campagne ciblant les Chinois vivant en dehors de la Chine. Nous parlons des rivaux politiques, des dissidents et de critiques qui dénoncent les violations massives de droits de l'homme en Chine. Dans un exemple, la Chine a menacé quelqu'un de retourner en Chine ou de se suicider. D'autres et leurs familles sont menacés et les membres de leur famille revenus en Chine ont été arrêtés. Le directeur Ray a déclaré que l'approche de la Chine exige une réponse. Faire face efficacement à cette menace ne signifie pas que nous ne devrions pas faire des affaires avec la Chine, a-t-il déclaré. Mais cela signifie que lorsque la Chine viole nos lois et les normes internationales, nous n'allons pas le tolérer. Le FBI et nos partenaires à travers le gouvernement américain tiendront la Chine responsable et protégeront l'innovation, les idées et le mode de vie de notre pays avec l'aide et la vigilance du peuple américain.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.